je pense qu'on est prêt. C'était comme parti, pas parti. C'est un peu bizarre, là. Je sais pas trop comment ça marche en direct, pas en direct. On est-tu en direct?
Dès que
Oui,
tu
on est
parles.
là.
Ben oui, ben oui. Dès que tu cliques, t'es en direct.
Ouais, mais je vois juste une thumbnail, en tout cas. C'est jamais clair. Fait que, on part ça en force. Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux. Plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Et oui, saison 13, épisode 4! Et laissez-moi vous dire que ça fait déjà 30 minutes qu'on est en train d'argumenter de façon assez sévère avant l'épisode. Alors, ça va être un épisode assez corsé, je crois. Table Talk! Hey, c'est fort, ça. J'ai pas réglé mon son. Bonsoir, La Flèche. Bonsoir, AP. Donc, je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie d'un trio de joyeux lurons. Nous avons Antoine Lefebvre.
Salut tout le monde!
Vincent.
Salut les ampoules pas propres.
Et bien entendu, la légende PPPP7, l'historien du jeu, Pierre Poisson-Marquis. Salut Pierre.
Bonsoir monsieur.
Yes, il a l'air en forme en plus ce soir.
C'est le vrai, encore une fois.
Ouais, le carton. Totalement le vrai. On va faire un petit tour de table, petit tour de table ludique, actualité ludique. Y a-t-il quelqu'un qui veut commencer? Pierre, justement, parle-nous donc de ça, ta fin de semaine de jeu. Qu'est-ce qui s'est passé, là?
Rien d'extraordinaire, à part une fin de semaine de jeu qui était bien pimenté. Dans tous les sens du terme. Parce qu'on avait eu un petit défi qui faisait en sorte que tous les joueurs qui perdaient une partie devaient manger des bonbons absolument indigestes. Et je joue de la saveur de piment fort et d'autres saveurs de crottes de nez. C'était très joyeux. Quand on perdait, c'était juste la fin du monde.
Mais là, t'as perdu beaucoup, c'est ça?
Oui, il a perdu lamentablement là, à tout. Là.
Mais toi, t'étais là, Vincent? T'étais là?
Ah non, c'est juste que c'était tellement lamentable que j'en ai entendu parler par la bande.
Oui, mais il faut s'entendre aussi que quand je dis perdre, c'est pas juste la personne qui est en dernière position, c'est tout le monde, sauf la personne qui est en première position.
Ah, ouais, OK. Fait qu'il y a beaucoup de perdants, peu de gagnants, là.
Ouais, c'est ça. Mais c'est une bonne façon de stimuler la volonté de gagner dans un jeu.
Le
méta-jeu, exactement. Ça fait partie du tabletop, le méta-jeu, à vrai dire.
Ouais, c'est ça. Mais c'est comme le strip poker. Hein? Le strip poker, on s'entend qu'on n'est pas loin de ça non plus. Il y a quelque chose de très... Ça rappelle aussi ton jeu, Pierre. C'est quoi ce fameux jeu, le jeu des gages? Le jeu de confrontation avec Gage, fait par le même team qui a fait Cosmic Encounter.
Oui, mais Dark Over, effectivement.
Dark Over.
La personne qui a organisé la fin de semaine est un grand amateur de ce jeu-là depuis qu'on lui a fait découvrir.
Ah.
Et je pense que ça l'a tellement frappé fort dans son imaginaire que ça l'a stimulé à essayer d'adapter la sauce à toutes sortes de jeux qu'on pourrait faire.
Excellent. Antoine, je passe le ballon.
Le ballon? Je l'attrape, le ballon.
Parfait.
Moi, je vais vous parler, en fait, vite. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu passer la nouvelle. Lego va refaire une nouvelle série de jeux de société. Là, on a juste un aperçu. En fait, on n'a même pas de détails tant que ça. Mais le premier jeu il va s'appeler Monkey Palace. Ça va être un mix, en fait, de coopératif et compétitif en même temps, avec la construction, avoir des objectifs communs. Je suis extrêmement intrigué par ce jeu-là. Donc, nous autres, on était quand même au courant un petit peu que la ligne de jeu Lego s'en venait. Donc, pour des raisons obscures, on était au courant de ça. Donc, mais voir que c'est Asmodée qui prend quand même les rênes de ça, je trouve ça quand même assez intéressant. Et ils vont en sortir quand même plusieurs. Là, on parle de jeux légers familiaux, mais ils vont aller aussi vers le plus gamer, ce qui faisait peut-être pas tant que ça auparavant. Donc, vraiment, vraiment intéressant. C'est sûr que ça ne peut pas être pire que les jeux qui ont sorti dans le passé.
C'est brutal, mais
Ben, ça n'a jamais été des gros succès, les jeux Lego, on ne se le cachera pas, là. Les notes, c'est vraiment pas très élevé. Ça reste des affaires très légères.
Mais les Lego ont quand même apporté, je trouve, une très belle innovation qui était les dés. Les dés modulaires avant même les jeux de dice building game, là, changer ton
Avant
dé et
Dice
tout.
Forge,
Avant
ben
l'autre, c'était quoi? Rattlebone, c'était eux
oui.
même qui l'avaient fait en premier, là. Mais c'est ça, Lego l'a fait bien avant et leurs dés, j'en ai 150 ici dans une petite boîte et j'adore ces dés. C'est des outils de design vraiment intéressants, malheureusement peut-être pas exploités à leur plein potentiel, là.
150, 150, tu les as toutes attrapées.
Oh yes! Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez attrapé les 150 Pokémon, les premiers, les originaux?
Non, je l'ai jamais fait.
Je me souviens de ça. On va prendre un petit 2 minutes pour se rappeler de ça, en fait. On était au Nouveau-Brunswick en voyage. Et vous savez, pour attraper les 150 Pokémon, il fallait que t'aies les deux cassettes. Il fallait que t'aies la bleue et la rouge. Et moi, j'avais la rouge, mon frère avait la bleue. Et à la fin, dans le Safari Zone, il y a l'Esti de Kangaskhan et le Scyther qui sont pratiquement impossibles à attraper. Tu peux rien faire à part grinder sans arrêt. Mon frère avait attrapé le Kangaskhan pendant la route. Et là, moi, j'essayais d'attraper le Scyther. Je m'étais bu 3 jus Oasis complets. Vous savez, les grosses bouteilles de jus Oasis. J'avais 13 ans, je sais pas trop. Et finalement, j'avais attrapé le Scyther. On s'était échangé les Scyther. On avait notre petit certificat 150 Pokémon. En fait, on avait 151 parce qu'on avait aussi Mew à cette époque-là que tu pouvais aller pogner au Toys R Us. Ils donnaient ça au Toys R Us. Le Nintendo était là. Ils t'échangeaient Mew contre n'importe quel crap que tu avais. C'était promotion quand il avait sorti le film. Incroyable, incroyable, les Pokémon. Magnifique. Fait que.
Moi, je me souviens juste du cheat pour avoir toutes tes candies, puis
Ah,
que
Rare
tes mots toutes à
Candy.
niveau. C'est ça,
Avec
exactement.
Missing No, tu buguais ta manette. Mais tu te rappelles-tu du cheat pour dupliquer un Pokémon quand tu tradais?
Non, ça, je m'en
Fait que là,
souviens
tu sais,
pas.
tu connectais les fils ensemble. Puis là, si tu fermais un des Game Boy à un certain moment et un des Game Boy à un autre moment, ça dupliquait un des Pokémon. Mais c'était une manœuvre excessivement dangereuse. Parce que ça pouvait rater. Fait que là, tu sais, tu tradais ton Charmander. Puis là, t'es comme, ah non, il faut pas que ça rate parce que là, tu vas le perdre. Mais là, c'était assez cool. C'était tellement une belle époque.
Oui, en effet, en effet.
Fait que Vincent, un peu d'actualité ludique avant qu'on se lance dans le vif du sujet.
Ben écoute, moi j'aimais ta take sur les Pokémon. Mais sinon, grosso modo, là, tu voulais, puis en plus, tu vas me tirer la pipe, là, apparemment, parce que je vais dire. Fait que, ben, je vais le dire. En fait, dernièrement, j'ai rejoué à à un jeu Inish que tu n'apprécies pas du tout, Simon, mais que les gens qui ont du goût l'apprécient, hein, tellement qu'ils veulent y jouer, ils veulent le découvrir. Mais blague à part, ça pour dire que ça m'a vraiment comme un peu frappé parce que j'ai comme réalisé à quel point que, il y a tellement d'excellents jeux, dont un des jeux qui a été joué pendant le week-end où est-ce que Pierre était. C'est un ami à moi de Victoriaville qui voulait jouer absolument à Container depuis des années. Qu'on a toujours retardé hein, le compte à rebours parce qu'on voulait essayer X, on voulait essayer Y, qui était la nouveauté du moment. Puis après toutes ces années, ben, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui arrive à la cheville de Container, puis qu'on aurait dû jouer à ça dès qu'on avait l'opportunité plutôt que de se lancer vers la nouvelle boîte, le nouveau hit du moment.
Ouais, ben c'est ça, Vincent, que je trouve. Je suis content que tu abordes ce sujet parce que, tu sais, je t'ai dit, on va t'attraper à ton propre jeu. Je rigolais un peu, là, tu sais. Je veux pas qu'on te matraque publiquement, là. C'est juste que, tu sais, toi, t'es vraiment l'apôtre de la non, tu sais, des nouveautés. On laisse ça de côté, c'est pas une bonne chose. On va aller redécouvrir les classiques. On va aller, tu sais, découvrir les jeux qu'on connaît pas, qui sont enfouis, tout ça. Mais au final, tu as la même quête que la personne qui veut suivre absolument les nouveautés et les sorties les plus fraîches. T'sais, en fait, tu cherches quelque chose que tu ne connais pas d'inusité. Et là, le fait que tu redécouvres ta bibliothèque et que tu prends le temps de rejouer à des jeux, ben, je trouve que ça te rend. C'est bon, c'est une bonne chose. Moi, je t'encourage à continuer ça.
Ben, merci. Merci. Je sais pas quoi te dire de plus.
Achète moins de jeux, joue plus aux jeux que t'as, continue dans cette voie, c'est parfait.
On s'entend qu'avec des bibliothèques comme ça, on a-tu vraiment besoin d'acheter des nouveaux jeux?
Non. Non. Par contre, il y a quand même quelque chose qui est intéressant de faire, c'est-à-dire aller visiter les différents titres de certains auteurs. Moi, je pense notamment à Stéphane Dora ou à Klaus Teuber, que ce sont deux auteurs que j'ai redécouvert un petit peu dernièrement. Puis c'est toujours le fun, en fait, toujours intéressant d'aller chercher davantage sur ces auteurs-là en tant que tels. Mais bref, je veux pas non plus qu'on...
Non, actualité ludique, légère, parfait, on se lance. Alors, le sujet du jour, c'était Table Talk. Donc, si j'ai bien compris, on veut savoir comment le mieux organiser sa table de jeu pour qu'elle soit vraiment pimpée et épique. Donc, des petits néons, c'était ça le sujet? Ou...
Exact.
Les portes gobelets.
Ok,
c'est bon, on arrête maintenant. Alors, bien entendu, le sujet n'était pas d'aller là nécessairement, mais de dire les discussions autour de la table. C'était un sujet volontairement large et je pense qu'on l'a tout interprété un peu différemment. Vincent, je te donnerai quand même la parole pour commencer parce que tu étais celui qui avait l'angle le plus clair et le plus précis. On va voir vers où on s'en va là, par rapport à ça. Je vais réactiver la photo de Pierre. Parfait, excellent.
En fait, oui, ben, c'est intéressant que Pierre ait abordé le sujet de son week-end parce que justement, l'organisateur du week-end et moi, on a eu une discussion fort intéressante autour de l'interaction, autour des discussions qui se sont passées. Et puis aussi en même temps, on en a discuté aussi, nous autres aussi, hors caméra, où est-ce que souvent, je vais avoir une tendance à taquiner, à aller vraiment écœurer un petit peu certaines personnes, notamment Pierre, que j'aime beaucoup en fait venir picosser. Et ce qu'on a réalisé en fait, c'est que parfois ce genre d'interaction-là est super drôle, super le fun entre nous autres, mais il y a comme un regard... Il y a comme un troisième œil qui peut circuler autour de cette perspective-là, puis c'est-à-dire les autres joueurs qui sont dans la salle. Qu'est-ce que les autres joueurs en pensent? Qu'est-ce que les autres joueurs comment est-ce qu'ils vont percevoir ça? Et surtout, qu'est-ce qui va en ressortir de ça? Est-ce que ça va rendre les joueurs inconfortables? Est-ce que ça va faire en sorte que y a des personnes qui vont embarquer dans la gamique, mais qu'au final, ça va créer plus un moment un peu maladroit ou un moment un peu un froid.
Est-ce que t'es con?
Si je peux mettre mon petit grain de sel là-dedans, ça va vraiment dépendre de ta table.
Tout à fait.
Avec Pierre, toi et Pierre, ça fait longtemps que vous jouez ensemble. Vous connaissez. Je ne dirais pas que vous êtes bons amis. Là, je ne sais pas Pierre s'il te considère son ami. Mais c'est ça, quand tu joues toujours avec les mêmes personnes, il se crée une atmosphère autour d'une table, mais quand tu vas inviter des nouveaux joueurs, ça peut être dangereux de tomber dans ce piège-là de un peu du trash talk puis du picossage, parce que c'est pas tout le monde qui va être nécessairement à l'aise avec ça. Il faut vraiment que les personnes soient se connaissent et sachent que c'est de bonne guerre et que c'est gentil et que ça ne veut pas être fait de façon méchante.
Mm-hmm. Tout à fait. Puis là-dessus, en fait, j'ajouterais aussi qu'il y a certains, il y a des insides, en fait, qui s'installent autour d'une table. Nous, on a une fameuse expression, puis elle est utilisée, puis c'est tellement drôle parce que Martin, qui était l'organisateur du week-end où est-ce que Pierre a été, est un travailleur social, et il y a un ami à lui qui est psychologue. Moi qui travaille justement là, dans tout le domaine de la santé, l'éducation, on a une expression que c'est « t'as fait un move d'atteint ». Et ça pourrait être vraiment mal perçu. Là, je vois déjà Simon qui fait « tu sais, mais vous comprenez à quel point que pour nous, c'est vraiment juste une expression très banale qu'on se dit entre nous autres qui est vraiment cocasse, mais que si on commence à dire ça et qu'il y a des gens qui ne connaissent pas notre contexte, mettons, professionnel ou qui ne connaissent pas vraiment cet inside-là, bien, soudainement, ça peut devenir un petit peu un petit peu awkward, même à certains moments où est-ce que les gens peuvent se sentir mal aussi de ce genre de commentaires-là. Ou encore pire, c'est qu'ils commencent à l'utiliser puis commencent à vouloir jouer le jeu sans connaître un peu les barèmes ou les limites de ce que nous, on s'est instauré là, dans le passé.
J'aimerais ça que Pierre nous parle de sa merveilleuse expérience en tant qu'animateur qu'il avait eu un jeune couple, si je me souviens bien. C'était pas toi qui nous avais raconté ça. En fait, l'histoire du couple qui s'insultait, s'envoyait promener. En fait, que le gars insultait sa blonde à tour de bras. Il la traitait de cruche, de conne.
Oui, mais c'était un jeu sexuel, là, ça, là.
Non, Pierre, vas-y.
Oui, ben, c'est pas mal ce que Simon disait. Ça fait partie des erreurs de vie de voir des gens qui ont des comportements qu'on questionne, et après ça, on finit par se rendre compte que ça fait partie des choses normales. Des gens qui ont décidé de se stimuler en public parce qu'ils ont besoin d'avoir des rôles à jouer. Et puis, ça va jusque dans l'exhibition publique. Des gens qui... un type avec sa conjointe qui était en train d'apprendre un jeu à la même table que moi. Je leur montrais un jeu. Puis après ça, on jouait au jeu. Et puis, tout à coup, délibérément comme ça, le type insulte sa blonde comme si elle venait de faire la guerre du siècle. Vraiment des noms assez abaissants.
Cru.
On demandait vraiment, c'était sérieux. Puis finalement, c'était sérieux, mais en même temps, ça n'expliquait pas pourquoi faire qu'il avait le droit de faire ça avec elle. Puis c'est là que plus tard, j'ai appris par la personne, la tenancière de la place, qui les connaissait un peu, m'avait dit que c'était simplement un jeu sexuel. Jeu de rôle sexuel que cette personne-là entretenait en public, comme ça. Le genre un peu Fifty Shades of Grey, ça se déroulait devant mes yeux. Là. Sauf okay. Qu'évidemment, on allait.
Mais ça, c'est le genre d'exemple, justement, que je parlais tantôt. C'est un exemple malaisant comme ça. S'ils sont entre eux autres ou avec des personnes qui connaissent cette histoire-là, ça va. Mais si tu es avec des inconnus, tu es en train de jouer au jab avec du monde que tu connais pas, puis tu commences à agir comme ça, ça va mettre un froid incroyable autour de la table et ça va scraper l'expérience de jeu carrément des autres joueurs. À moins qu'ils trouvent ça très drôle parce qu'ils sont juste socially awkward, mais normalement, ça devrait te mettre mal à l'aise.
Ben, c'est pour ça qu'il y a quand même un point à... Tu sais, il y a une espèce de ligne à ne pas franchir qui est la ligne quand même de... Tu sais, en quoi est-ce que c'est le fun de traiter quelqu'un d'atteint? Mettons, tu sais, je me demande là, cette réflexion. Là,
ben,
où...
En fait, je comprends ta question. Je pense que c'est justement là, en fait, que la nuance vient. Puis en fait, c'est un bon segue que t'amènes, Simon, parce que autant que cette expression-là peut être mal vue de l'extérieur, surtout pour quelqu'un de facilement froissable comme toi, Simon, mais blague à part...
Je veux un droit de réplique après, c'est bon.
OK, parfait. Mais tout ça pour dire que je pense, par contre, il y a des moments où cette frivolité-là, cette frugalité-là, mais aussi peut-être certains moments un peu plus conviviales, peut amener justement le contraire, peut amener en fait les gens à se sentir plus à l'aise. Et petite anecdote d'ailleurs avec Danny qui est dans les commentaires, Danny Gosselin, et puis Pierre était à la table et on jouait à un jeu qui s'appelle Cosmic Frog. Et ce qui se passe dans Cosmic Frog, c'est vraiment... C'est, on se rentre dedans, on est des grosses grenouilles cosmiques qui mangeons des planètes. Et puis, moi et Pierre, évidemment, on se rentre dedans, on s'en va y promener un petit peu. Et ça a fait en sorte que Danny s'est retrouvé autour de la table, a tellement eu du fun à nous regarder, moi et Pierre, se chamailler, se taper sur la marboulette, Ça faisait en sorte aussi que, en cas de doute, ben, les gens avaient comme une personne sur qui taper, sur la tête, c'est-à-dire moi. Fait que ça l'amenait, non, mais c'est con, mais ça l'amenait vraiment le fait que les gens se sentaient soudainement à l'aise autour de la table. Et depuis ce temps-là, Danny est un. Lui, c'est un fan d'euros fini. Il adore les euros. Mais il aime tellement ça, jouer à des jeux funky comme ça, avec de l'interaction, puis que ça va créer des situations, parce qu'il aime voir un peu qu'est-ce qui en ressort. D'ailleurs, un de ses jeux favoris, c'est Cosmic Encounter, grâce à, justement, toutes les différentes interactions qui peuvent se créer. Et il est tellement drôle, parce que la dernière fois qu'on a joué ensemble à un jeu avec sa femme, à Danny, on jouait à Lifeboat, et à la fin de la partie... Sa femme a dit « Hey, t'as vraiment été rough avec Vincent. Pour vrai, là, tu devrais peut-être t'excuser parce que ça t'as pas été... »
Non, non, c'est un jeu. Ce qui se passe dans un jeu, ça reste dans le jeu. Faut pas le prendre personnel. Faut pas trouver ça...
Ah ben là, j'utilise exactement ce moment-là pour tu sais, je disais on allait parler de sexe un peu ce soir, tu sais. Et en plus, là, ça va être des propos c'est choquants.
C'est ça qu'on a avec les pierres, d'ailleurs.
Ouais, fait que s'il y a des gens qui sont un peu sensibles... Tu sais, parce que je vais citer le Doc Mayou, OK? Donc c'est ça là, c'est que ben c'est ça, ça en tout cas moi bref on s'embarque pas dans le sujet, je vais juste dire que je vais le citer, c'est bon. Fait que tu sais le Doc Mayou lui il disait quand même assez régulièrement que dans le sexe, pendant que t'es dans l'acte, tu peux dire plein de choses, mais ces choses là tu peux pas nécessairement les dire après. Donc tu peux traiter ta femme de cochonne pendant que t'es en train d'avoir une relation avec elle. Mais après, tu vas pas dire qu'elle est cochonne. Au pire, tu vas dire qu'elle est ardente. T'sais, tu vas utiliser des termes qui sont plus raffinés.
Et je suis en train de dire, je peux pas dire ça devant mes beaux-parents, que ma femme est cochonne.
Non, mais tu peux dire qu'elle est ardente. T'sais, parce que ça sonne bien et c'est un peu plus raffiné. Donc, l'idée, c'est de... T'sais, le jeu, ça reste un cercle magique. Je voyais dans le chat aussi la question de persona. T'sais, on le sait, Vincent, chez lui, il y a un poster, genre, quand tu joues à un jeu, attaque Vincent, en cas de doute, attaque Vincent, si t'es pas sûr, réfère-toi à la règle d'avant. T'sais, c'est comme, tu peux attaquer Vincent sans problème, puis ça fait partie du plaisir de jouer avec Vincent. Mais ça, c'est son persona de joueur. T'sais, c'est comme chaque personne a un peu sa personnalité différente. C'est vrai que d'exporter des personas ou des attitudes dans des groupes que tu connais pas, c'est comme dans la vie de tous les jours. T'sais, quand tu vois quelqu'un la première fois, tu vas être, il y aura une certaine retenue. Mais dans le jeu, c'est plus facile de la franchir. Moi, j'avais un exemple en tête. C'était, je jouais avec des gens il y a quelques années, t'sais, puis ils étaient un peu plus jeunes et tout. Mais peu importe, ça n'a pas rapport. Eux, là, ils se traitaient de gays. OK, tu sais la bonne vieille insulte là, tu sais, genre ah, c'est que t'es gay, tu sais, c'est comme tu sais quand on... ben non mais vous comprendrez mon sarcasme là-dessus, tu sais. Puis là, c'est comme OK, tu c'est correct, tu sais, moi j'aimais pas tant ça. C'était un tu sais OK, c'est ça, tu sais, mais là t'arrives dans des groupes où là tu connais personne, puis là il va te traiter de gay, ça. Puis là, finalement, tu sais qu'il y a quelqu'un, tu sais, qui est homosexuel autour de la table, mais qui est comme un peu mal à l'aise, puis t'es comme « Christ, t'es-tu cave? » Mais là, ça crée comme des situations où tu connais pas les gens, tu sais pas c'est quoi leur vie, tu sais pas c'est qui leur frère, leur soeur, leurs parents, tu sais rien de ça. Le jeu, c'est là pour s'amuser aussi, tu sais. On s'entend que, je comprends que un des plaisirs du jeu, c'est un peu d'insulter ses adversaires, mais est-ce que c'est vraiment ça le plaisir de jouer à un jeu, de faire chier du monde autour d'une table? Et là, on tombe un peu plus loin. Moi, vous savez que je suis vraiment comme pas pro cette approche-là, parce que je trouve pas ça édifiant. T'sais, je trouve ça un peu comme... T'sais, je comprends que des gens aiment ça, ça me dérange pas qu'ils aiment ça, mais quand moi, je veux m'asseoir autour d'une table et jouer avec des gens... Ça fait pas partie de mon plaisir de les traiter de caves, puis de dire que je vais les enculer, puis genre de les menacer, puis toutes ces choses-là.
On les insulte, c'est jamais agréable, en fait, autour d'une table. Peu importe le contexte, même un contexte de jeu, à moins que tu sois en train de faire un jeu de rôle, puis c'est carrément ça.
Oui, dans des jeux de rôle, c'est différent, ou encore là, dans des groupes très précis où la dynamique, tu sais, que la dynamique existe, il n'y a pas de problème, là. Je veux dire, si les gens sont déjà dans cette dynamique-là, tu sais, après, tu veux pas tomber dans une espèce de truc de bullying sans t'en rendre compte, puis tout, tu sais, tu sais pas des fois comment les gens y sont. Après, Vincent, on sait, il a une bonne carapace, tu sais, c'est un homme solide, c'est correct de s'attaquer à lui, mais moi, j'aime pas ça, m'attaquer à lui.
Mais c'est correct. Mais c'est drôle que tu parles de ça, parce que, tu sais, Antoine, ça me fait penser à quand on a joué à Palace Gaffey Star, puis qu'on se disait qu'on se faisait des murmures dans le palais, là. C'est hors contexte, c'est comme un peu awkward en effet. Là,
oui, ça reste dans mes meilleurs moments des jabs, en fait, ces parties-là. Mais moi, je voulais utiliser une autre approche sur le table talk. Et on a glissé un mot déjà dans nos discussions. En fait, c'est est-ce qu'on peut parler de stratégie à la table pendant qu'on joue?
Ben là, tu vois, c'est ça qui arrive là, dans le chat en même temps que t'en parles. Là. C'est vers là qu'on est-ce s'en qu'on... va. Fait...
Est-ce qu'on peut, en fait, dire qu'est-ce qu'on va faire ou pointer ce que l'adversaire est en train de faire pour dire, exemple, hey, faites attention, lui, il va faire ça, telle affaire, le prochain tour, toi, va le bloquer. Est-ce que, pour vous autres, c'est quelque chose de correct? Ou est-ce bien que... sûr.
Ça, pour moi, c'est la base des jeux. C'est...
Ben oui.
C'est la base des jeux.
Moi, je le sais, j'ai rencontré des gens, en fait, qui veulent absolument pas... qu'on dise ça ou qu'on parle de stratégie ou qu'on tu sais qu'ils ben, l'ont pas vu là, il y avait juste à le voir puis non justement c'est écoute c'est pour moi ça fait partie un peu de la négociation aussi même autour
ouais,
de
ben, la y a une... ouais puis il y a une différence entre le dire tu sais il y a aussi mettons aider des nouveaux joueurs mais je vais pas dire à quelqu'un lui présenter un move qui va me nuire là. Je vais lui présenter un move qui m'avantage d'une certaine façon là.
Fait que... c'est ça.
Fait que et ça, c'est ça là que ça devient intéressant là. C'est là que ça devient c'est intéressant là, de jouer là.
Ouais, puis de l'autre part, il y a aussi le fait que tu sais, il y a des règles par rapport aux communications qui vont être très 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 spécifiques. Puis pour moi, si le livre de règles ne dit pas spécifiquement tel type de communication est interdite, comme par exemple au bridge, où est-ce que tu as des règles de communication très, très, très restreintes, tout peut se dire au niveau stratégique.
Oh oui.
Si les gens
se sentent... dire, regarde, moi j'ai tant de cash, même si le cash est secret, ça va juste, en fait, te nuire à toi, techniquement. Mais si tu es prêt à le dire, c'est parce qu'il doit avoir une raison stratégique de le faire. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que ce genre d'interaction-là peut amener en fait une dimension de bluff et de négociation dans un jeu qui ne contient pas de bluff ni de négociation.
Mm-hmm. Tous les jeux contiennent du bluff et de la négociation.
C'est ce qui devient intéressant pour moi avec le table talk. Si tu ne parles pas autour de la table, tu te concentres et tu fais juste ton truc, il n'y en aura pas de ça. Alors tu viens ajouter de l'interaction dans un jeu qui n'en a pas nécessairement beaucoup. Fait que ça, c'est vraiment la dimension que je trouve intéressante. Pierre, il est très tranquille, le petit ninja en arrière, là.
C'est pour faire contraste à ce que vous faites, vous parlez de tabletop. Moi, je suis juste une personne qui parle sur la table.
Ben, vas-y, Pierre, on veut t'entendre sur le tabletop. Toi qui veux créer des situations, puis d'ailleurs, j'ai un hommage à te faire après.
Là, il reste pas beaucoup de temps là, pour l'hommage. Je voudrais juste rappeler que Pierre a déjà traité une parfaite inconnue de grosse vache. Autour d'une table.
Grosse vache, une parfaite inconnue en plus.
Hey! Donc, viens pas me faire. Viens pas
j'ai
faire
entendu parler de cette histoire-là par la bande parce que les gens. Et... tu vois, ils s'en rappellent même plus. Mais je pense que Pierre, il a mangé beaucoup de bonbons en fin de semaine. Peut-être que son taux de sucre est pas
de
au
nombre,
point.
Le nombre de fois que Pierre nous a traité de gros porc, ça, par exemple.
Oui.
Je peux plus les compter.
Même pas en jouant, des fois.
Ben, hey, écoute. Pierre, écoute, Pierre, sais-tu quoi? Je vais te faire... regarde, je vais te faire mon hommage tout de suite.
Il te reste 50 secondes.
Il reste 50 secondes, parfait. Ben, en fait, puis je vais faire une grosse annonce. Mon persona de joueur qui est cœur Pierre s'éteint aujourd'hui à Balado Ludique. Donc, je vais garder un professionnalisme avec Pierre et il va se terminer avec cet hommage-là. D'accord?
C'est parti.
Parfait. Alors, cher Pierre, merci d'être le pire de mes soucis autour d'une table. Tu pimentes mes parties comme un pot de sriracha échappé sur un jeu. Même si poisson veut dire puissant, tu fais toujours preuve d'humilité en perdant lamentablement. Tout ça pour créer des situations, et ça, c'est un véritable ami qui sacrifie sa victoire pour les autres. Merci d'être un encyclopédie sur deux pattes qui connaît pratiquement tout de n'importe quel sujet et particulièrement celui des jeux. Pour les règles, par contre, on repassera. Mais on sait qu'on aura un temps privilégié avec toi. Toujours accompagné, évidemment, d'un « Es-tu sûr sur cette règle-là, mon Pete? » Ça me semble que ça n'a pas de sens. Et encore une fois, tu fais preuve d'humilité en reconnaissant tes forces et tes faiblesses. Tout ça pour créer des situations. Sache que je t'apprécie énormément et particulièrement en tant qu'être humain. T'es comme le grand frère que j'ai jamais eu, avec ses bons côtés et les moins bons. Parce qu'en tant que joueur, tu me tapes vraiment ses nerfs avec tes moves d'atteint juste pour me picosser. Mais c'est correct parce que ma défaite est ta victoire et que c'est bien la seule manière pour augmenter tes chances de gagner. Au final, c'est un honneur de perdre à tes côtés parce que chaque bataille est un moment mémorable qui reste gravé dans ma mémoire. Chaque fois que je perds, je sais que j'ai quelqu'un pour m'accueillir six pieds sous terre. Un véritable ami qui va te suivre jusqu'à mort sans suivre. Un frère qui m'accompagne même dans les insultes pas de classe. Maudit gros péteux sale. Maudite grosse vache. Mon gros porc sale puant. Que des mots doux que je dirais à ma douce Nancy. Toi aussi, tu les dirais d'ailleurs. Merci pour toutes ces belles expériences, ces jeux découverts, ces histoires à raconter. Tu es la pierre de mon industria, le poisson de mon calvaire, c'était le mot le plus proche de poisson, et le marquis de mon Québec. Oui, mais Vincent, il n'y avait pas de marquis au Québec. OK, d'abord, le marquis de mon fief 1427. Longue vie à notre amitié, notre lien privilégié que nous partageons, tant autour de la table qu'en dehors de celle-ci. Merci pour qui tu es. PS, Nancy te dit qu'elle te préfère à Martin. PPS, Nancy t'attend bientôt pour un autre souper de saucisse.
Alors, je pense qu'il n'y a rien à dire, hein? Il n'y a rien à dire après ça. Pierre, un petit mot pour la fin?
Je sais pas. Je vais aller voir. Je vais aller voir si j'ai reçu des fleurs aussi ailleurs. Je vais, pour savoir si j'ai pas un hommage qui s'en vient généralisé comme ça. Je sens que j'ai une fin de vie qui se dessine avec tout cet hommage-là.
Oh non! C'est ça! Hey, ben,
c'est
tout
en
le monde.
Direct de l'univers!
Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là encore cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine.
Bye!